toujours dans le souci d'éclairer la Cour, la Cour souhaiterait que soit dressé un portrait psychologique de l'accusé. Aussi, nous faisons appel au docteur Letellier, qui va bien vouloir nous rejoindre. Docteur Letellier, qu'est-ce que vous avez à déclarer à la Cour ?
Tout d'abord, je voudrais rappeler que le président Chirac est le fils unique dans une famille de 20 enfants. Mais, cas particulier, et c'est important pour comprendre sa personnalité, il est en fait, et c'est dramatique, le second enfant, puisque avant lui, il y a eu une petite fille qui s'appelait Jacqueline. Donc nous avons ce qu'on appelle en psychanalyse le phénomène de Lazare. Il est le deuxième enfant après une petite fille disparue. Comme c'est le deuxième enfant après une petite fille disparue, toute l'affection de sa mère s'est reportée sur lui, et elle le définissait d'ailleurs comme l'enfant du miracle. C'est important de comprendre ceci pour comprendre le reste. D'ailleurs, pour comprendre le reste, il est aussi important de comprendre ceci. Donc l'enfant du miracle, c'est un enfant qu'on choisit. Un enfant qui rentre de l'école, et lorsqu'il rentre de l'école, sa mère a mis sur la table de la cuisine une petite sucette dont elle a insisté pour que soit dépiautée afin qu'il n'y ait pas de geste inutile. Par la suite, le petit Jacques, donc qui est un fils unique, va avoir les défauts d'un fils unique. Quels sont les défauts d'un fils unique ? Fils unique moi-même, fils de fils unique, petit-fils de fils unique. Il y a ce désir permanent d'être aimé. Je peux en témoigner. Et donc, sans ce désir permanent d'être aimé, il y a la volonté de plaire. Et qui dit plaire à tout le monde, car ça ne sert à quoi de plaire à une personne ? À rien. Il faut donc plaire à tout le monde. Et c'est ce qui explique, chez Jacques Chirac, cette capacité parfaitement convulsive de passer d'une opinion à une autre, d'un costume à un autre, sans jamais, finalement, se sentir gêné par ce basculement psychologique. C'est important à le comprendre, autant que la sucette au moins. Par la suite, il y a, et je crois qu'il faut le dire, comme dans tous les fils uniques, cette incapacité à confronter, à s'affronter au frère, à la sœur. Et donc, il va développer une personnalité à partir non pas de cette confrontation, mais à partir d'une adoration, d'abord celle de sa mère, et ensuite par l'adoption de mentors. Qui sont ces mentors ? Alors il y a bien sûr Madame Mère, dont j'ai parlé, qui finalement ressemble terriblement à son fils, à moins que ce ne soit l'inverse. Elle est grande, de très longues jambes, un grand nez, un rire communicatif. On voit de qui tient le petit Jacques. Et puis, il y a plus tard le général Brosset. Qui est le général Brosset ? Le général Brosset est un homme qui, le 14 août 1944, au soir, la nuit est plutôt calme, mais la France est en train de se libérer, donc elle est quand même plutôt agitée malgré tout, à la tête de la première division, entre dans la maison des Chirac pour demander l'hospitalité, et là, le petit Chirac, 12 ans, nous sommes en 44, il est né en 32, découvre cet homme, cette figure paternelle très puissante, pour laquelle il va immédiatement sentir une adhésion totale, et ce sera le début de cette période qu'on va appeler fanamilie, fanatique militaire, qu'il conduira après Sciences Po à faire Saumur, voilà, non parce que certains ne comprennent pas ce que veut dire Saumur, donc je vous rappelle que c'est quand même un cadre militaire très strict, et à adopter une posture de fanatique vis-à-vis des questions militaires, qu'on retrouvera plus tard à d'autres occasions et peut-être bientôt. Le troisième personne qui va compter pour lui, et je m'excuse de devoir consulter mes notes car j'ai peur d'écorcher son nom, c'est un professeur, sans le sou, d'origine russe, un russe blanc, monsieur Delanovitch, que les parents de monsieur Chirac vont finir par héberger car il voulait apprendre le sanskrit. Au bout de 3 mois, Jacques Chirac se rend compte que c'est difficile le sanskrit, et il se rendra finalement vers une langue plus simple qui est le russe, mais qui est compliquée donc quand même un petit peu. Donc, Delanovitch, c'est lui qui va finalement donner à Jacques Chirac ce goût qui va lui rester pour l'art chinois, pour la civilisation perse et, de manière générale, pour les arts primitifs. Ce sont donc ces trois mentors qui, aujourd'hui encore, sont présents dans son esprit et qui gouvernent sa vie. J'ai dit fils unique par ses trois caractéristiques, mais il faut préciser également que c'est un garçon soumis. Un garçon soumis à son père, le rude François Chirac, un homme difficile de caractère, souvent absent, ce qu'on peut appeler, dans le langage rude de l'aristocratie, un parvenu. Et oui, car François Chirac est en fait le fils d'un instituteur, et il a commencé sa carrière comme employé de banque à Clermont-Ferrand, mais rapidement, il monte à Paris où il devient administrateur de société. Et là, dans un très vaste appartement, puisqu'il peut héberger Monsieur Dalanovitch, il est malheureusement très absent, mais il dirige son fils d'une poigne de fer. Et ce fils, comme il le trouve assez peu viril, il l'envoie sur un cargo qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais c'est un très joli nom, je crois que c'est le capitaine Saint-Martin, cargo qui part sur les flots, et comme nous sommes en été, que c'est censé être seulement un voyage de confrontation à la mer, le jeune Chirac devait débarquer. Mais malheureusement, nous sommes à Dunkerque, en 1956, et le petit Chirac ne veut pas débarquer. Il veut rester en mer, devenir capitaine. Que fait le père? Il va le chercher, il le force à descendre. On voit donc qu'on a affaire à un caractère d'insoumis, mais d'insoumis docile. C'est un cas assez complexe au niveau conflictuel, puisque malgré une volonté de devenir explorateur, de devenir capitaine au long cours, de devenir archéologue, tous ces désirs fondamentaux du jeune Chirac, de Jackie comme l'appelle sa maman, sont contredits, sont compromis, sont annihilés par un père difficile. Alors, cette affaire du cargo révèle bien le personnage et permet de mieux comprendre pourquoi plus tard il deviendra explorateur, mais autrement. Que va-t-il explorer ? Eh bien, il va explorer quelque chose qu'il ne connaît pas, mais qu'il convoite énormément, c'est ce qu'on peut appeler la famille Chaudron de Courcelles. La famille Chaudron de Courcelles, c'est un monde en soi pour un petit-fils d'instituteur de Corrèze. Et la famille Chaudron de Courcelles, dont il épousera la fille, Bernadette, en 1956, à l'église Sainte-Clotilde, dans la petite annexe, malheureusement, car les parents de la famille n'ont pas voulu qu'il se marie dans la grande chapelle, c'est une manière de l'humilier, de lui faire sentir quel était son rang, et de lui répéter régulièrement « Jacques, vous n'auriez jamais dû rentrer dans la famille ». Eh bien, Chirac va essayer de combiner cette exploration d'un monde qu'il ne connaît pas, tout en essayant en permanence, finalement, de s'y affronter. Donc il cherche à la fois la particule et l'argent que représente la famille Chaudron de Courcelles, et simultanément, il la provoque par une attitude extrêmement violente, avec des mots qu'on a cités, mais on pourrait également citer celui prononcé à l'occasion de la rencontre avec Margaret Thatcher. « Qu'est-ce qu'elle me veut, la ménagère? Que je mette les couilles sur un plateau ?» Voilà une expression qui ne départ pas dans la bouche de Jacques Chirac, car en effet, on voit bien que c'est par cela qu'il s'affirme, par le langage, par la violence, et je crois que c'est un des éléments importants de sa personnalité. Alors, pour conclure, puisqu'il est temps de conclure sur sa personnalité, je dirais que c'est un personnage qui a malgré tout, bien que on puisse trouver des dimensions schizophréniques dans sa capacité à mentir, mais le mensonge, que serait la vie sans lui, comme disait Anatole France, à peu près. Giscard, pour parler de sa prépension à pouvoir mentir, disait par exemple, vous prenez Chirac devant un pot de confiture. Il a les mains dans la confiture, la bouche pleine de confiture. Le pot est devant lui, il est ouvert, le couvercle est posé. Et vous lui dites, mais Jacques, vous mangez de la confiture? Que vous répond Chirac? Il dit, non, 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 monsieur le président, je ne mange pas de confiture. Eh bien, cette capacité en permanence, fort bien résumée par Giscard, c'est le fondamental. Il n'y a pas de mensonge, car il n'y a pas de contre-vérité. C'est une autre vérité, c'est ailleurs, c'est une autre facette du monde, c'est un univers parallèle où il n'y aurait pas de confiture, pas de pot de confiture, pas de traces sur les doigts, et c'est vrai aussi, quelque part, sous les vêtements nous sommes nus, et sur les doigts de confiture, il n'y a pas de confiture non plus, les atomes ne se touchent pas. Je crois qu'on peut résumer ainsi les personnalités de Jacques Chirac. Quant à savoir s'il est responsable pénalement, je pense qu'on peut répondre oui, l'homme est sain d'esprit, malgré des tendances à la schizophrénie et à la paranoïa, mais qui ne l'est pas. Sa vision de la vérité n'est pas très éloignée de certains confrères du barreau que je connais. Et donc finalement, je dirais que cet homme a de fortes chances de pouvoir se réhabiliter. La famille est aisée, peut lui payer un infirmier de manière permanente. Et je conclurai ainsi en disant que, sans doute, la possibilité non seulement de sa réhabilitation, mais de sa réinsertion sociale sont fortes. Et je demande à ce qu'il en soit tenu compte dans ce procès.
Merci beaucoup, Dr. Letellier. Tu as gagné la salle.